Oh putain. Salut Marc et les Smart et bienvenue dans Catch Up Pro, votre émission hebdomadaire d'analyse du catch par la team Catch Up des experts des cahiers du catch. Je suis Hank et cette semaine je suis accompagné par Raphaël en esprit parce que dès que sa vidéo arrive l'audio descend, donc voilà. Salut Raph.
C'est là, c'est ça, salut, je suis là par la voix, mais vous ne savez pas où je suis, ça fait partie du mystère de ma gimmick. Je voilà. Suis l'homme sans corps, je n'ai qu'une voix.
Voilà, mais vu que la majorité de notre audience est audiophile, ça ne leur changera rien. Mais voilà, si vous voulez voir une image de Raph fixe, eh ben, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Donc, aujourd'hui...
aussi le bel Hank quand même, hein, ça vaut le coup.
Oui, voilà, magnifique, avec mon t-shirt Brizango pour les auditeurs. Donc, aujourd'hui, donc du coup, c'est l'Euro du 18 septembre dont on va parler, l'Euro qui se passait à San José en Californie et qui est le go-home show de No Mercy, le pay-per-view qui auparavant était un pay-per-view dont tout le monde se foutait, mais cette année est devenu WrestleMania, pré-WrestleMania ou WrestleMania 1.5, enfin bref, un pay-per-view, un petit pay-per-view avec une grande affiche. Mais on va commencer ce show déjà avec Kurt Angle. Alors Kurt Angle, il arrive pour, bien sûr, de façon assez classique, hein, pour un go-home, annoncer la carte du pay-per-view. Donc du dimanche 24 septembre. Alors il annonce les grandes têtes d'affiche, dit Roman Reigns, Cena, Brock Lesnar, Braun Strowman, tout ça. Et là, bah forcément le Miz, il arrive parce qu'il est pas content, parce qu'on parle pas de son titre intercontinental. Et il dit ça fait deux pay-per-view que j'ai pas de match pour le titre intercontinental, on se fout de ma gueule, tout ça. Et Kurt Angle lui dit t'avais qu'à me laisser parler parce que justement j'ai une solution. Bien sûr, on va avoir un bon vieux gauntlet, enfin un bon vieux six-pack challenge avec donc du coup on avait les Hardy, on a Jason Jordan, Elias Sampson. Et donc au début on a que ça en fait comme intervenant. Et puis à ce moment là le Miz il fait c'est sympa, mais déjà Jason Jordan, qu'est-ce qu'il fait là, il mérite pas sa place et tout ça, c'est encore une histoire de pistonner ton fils. Et donc ça commence à s'embrouiller parce que bon Kurt Angle il parle du fait que le Miz il va être papa, donc voilà, c'est la guerre des papas, hein, qui est le meilleur papa. Et puis le Miz il dit je devrais être ta priorité, ça devrait pas être Jason Jordan. Jason Jordan, il arrive pour défendre son papa et puis il dit oui, mais de toute façon s'il veut que le Miz voulait que le Miz Tourage participe donc du coup à l'événement, hein, l'histoire de voilà de montrer enfin qu'il y ait des vrais adversaires dans cet événement, parce que pour lui le Miz Tourage voilà c'est les champions de demain. Bref, Jason Jordan arrive. Il dit à Kurt Angle accepte ce qu'il vient de te proposer, hein, laisse le Miz Tourage participer, comme ça je pourrais lui prouver clairement que voilà, je mérite cette place, cette chance pour le titre intercontinental. Et voilà, puis après ça se termine un petit peu en baston. Donc ce qu'on a, c'est une annonce de ce six pack, hein, que je disais au début. À la fin du show, le main event, ce sera les Hardy, Jordan, Elias Sampson, Curtis Axel, Bo Dallas. Je crois que j'ai oublié personne. Ça. J'ai oublié personne. Pour gagner le titre de First Contender et avoir ce match à No Mercy contre le Miz. Qu'est-ce que t'as pensé de cette intro, Raph?
Eh bien, écoute, ça devient un classique, cette histoire autour de Jason Jordan. Là, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Ce qui est un peu décevant, c'est qu'on part sur un six-pack challenge en main event, alors que là, vu le segment d'ouverture, on sait qui va gagner, quoi. Mm-hmm. Ça paraissait improbable d'avoir une victoire de même des Hardy. Enfin, bon, c'est Jason Jordan, là, c'est son moment, c'est sa faute contre le Miz. Donc, c'est toujours un peu bizarre de faire des... de justifier ça en mettant plein de mecs qui en ont rien à voir dedans, mais sinon le Miz est toujours très costaud au micro, donc rien à dire sur ces petites piques sur Jason Jordan, qui lui Le gamin fait ce qu'il peut, ça va, il a été honorable, j'ai trouvé au micro, il a pas dit grand-chose. Rien d'humiliant pour le moment sur ses performances au micro. Rien de grandiose, mais ça va, il est protégé.
Ouais, bah, je sais pas à quel moment ils vont changer de registre, mais le coup du tu touches pas à papa, j'ai trouvé ça un petit peu infantile, quoi. Qu'est-ce que t'as dit sur Kurt? Bon,
Oui, bah surtout qu'il a
ça fait deux
largement les moyens.
semaines qu'il connaît le, ça fait 2 semaines qu'il sait qui est son père et
Puis il a
maintenant
les moyens de
c'est
se
genre.
défendre tout seul, Kurt Angle, je pense.
Oui, voilà. Encore que des moments on n'a pas vraiment l'impression, hein, Kurt Angle il s'est un peu malmené. D'ailleurs, j'ai pas dit mais il a encore fourché la langue au bout de 10 secondes. Hein. Kurt Angle
Ah oui, je sais plus
pour
qu'est-ce qu'il s'est
sortir
gouré
une.
là.
Kurt Angle au milieu de l'arène, encore quand il est en coulisses, ça va. Quand il est au milieu de l'arène pour sortir deux phrases sans fourcher un mot, c'est. Faut prier. Hein.
Oui,
Mais.
je sais plus ce qui s'est raté là, mais c'est vrai qu'il s'est raté un peu une prononciation. Bon, après, il a du charisme et il est hyper populaire auprès du public, donc c'est un
Oui, non, mais
GF
voilà, mais
qui
en
tient la
plus, je
route.
pense que ça fait. Enfin, ça va avec son personnage qui est un. Je vais pas dire un vieux gentil, mais tu sais, enfin, c'est un peu, il est un peu gaffeur, quoi. Il a un peu ce côté-là où il est tout innocent. Donc oui, non, ça va avec son personnage, mais c'est juste des moments où je me dis, est-ce qu'il va en réussir une en entier, quoi? À chaque fois qu'il va pour comment? Pour présenter un pay-per-view, à chaque fois il fourche la langue, à chaque fois il y a un truc qui part en vrille. Enfin bon. Mais donc voilà, on en reparlera un peu plus tard de ce match. Mais oui, on nous désigne un gagnant. Sera-ce le gagnant le plus évident? Vous le saurez à la fin de ce podcast, ou vous le
Eh
savez
oui,
déjà.
écoutez-le en entier.
Voilà, écoutez-le en entier. On va passer aux filles avec sa Bliss, donc du coup la championne qui avait un match contre Nia Jax complètement gratuitement. Pas vraiment de prétexte. Elle avait un match contre Nia Jax cette semaine. Donc on la voit qui est bien flippée, hein. Elle joue extrêmement bien la championne effrayée d'aller jusqu'au ring. Mais donc Naya, bah, bien sûr, elle domine largement et on attend le moment où Alexa Bliss va s'en aller. Donc elle tente bien de s'en aller à un moment à Alexa Bliss, mais c'est Sasha Banks qui est là pour lui dire non non non, tu retournes au ring. Et au moment où Alexa Bliss commence à reculer face à Sasha Banks, et bah il y a Nia Jax qui arrive et qui lui fout un coup de nichon. Il l'aplatit à terre.
Ça t'a plu visiblement.
Trouvé ça assez violent. Non, mais c'est ma. En fait, le truc, c'est qu'il y a ce truc avec Bayley où n'importe quelle autre superstar ferait ça. T'appellerais ça, je sais pas, crossbody ou un truc comme ça, etc. Mais Nia Jax, elle peut pas faire de crossbody, etc. Donc, si elle fonce sur quelqu'un vers l'avant, comme ça, on a plus l'impression qu'elle attaque avec ses. Avec ses
Avec sa poitrine.
avec sa poitrine, voilà.
Oui.
Mais donc voilà, petit coup de pub. Donc du coup le match n'est pas fini, hein. Avec sa Bliss est remontée dans le ring, mais elle arrive un petit peu à s'en tirer. Elle arrive un petit peu à casser les jambes de Nia Jax, hein, à faire tomber un petit peu le monstre. Et puis, comment Jax prend quand même finalement le dessus, et puis elle finit sur, je sais plus, une espèce de.
Bah
Bah,
son Samoan drop là, ouais.
Samoan Drop, ouais, voilà. Son Samoan Drop, 1, 2, 3, victoire. Et juste après ça, bah, il y a Sasha Banks qui en profite pour essayer d'attaquer Nia Jax. Ça ne marche pas. Donc Alexa Bliss et Nia Jax, Alexa Bliss et Sasha Banks contre Nia Jax, donc du coup ça ne fait pas le poids. Eh bien, il manque quelqu'un, c'est Bayley. Et oui, c'est Bayley qui est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Et donc du coup, elles s'allient toutes les trois, hein, pour mettre Jax à terre de façon, enfin, totalement gratuite. On n'est plus dans un match là, c'est juste, c'est juste comme ça. Et puis après, dans la célébration, elles sont toutes contentes, mais dans la célébration, bah, Alexa Bliss, elle fait genre, ouais, je suis vos potes et tout ça. Bailey, elle est pas d'accord. Donc du coup, enfin Bailey et Sasha, ils sont pas d'accord. Donc du coup, voilà, elles s'associent, elles font un petit combo. Bailey lui fait un Bailey to Bailey. Et l'histoire est réglée. Donc ce sera bien un Fatal Five Way dimanche entre Bailey, Nia Jax, Alexa Bliss, Sasha Banks et Emma. Et oui, parce qu'il y a Emma, elle était pas là. Tout le monde s'en fout. Elle a fait un tweet. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir. Elle a fait un tweet. On l'a mis sur le grand écran. Il n'y avait pas besoin de plus. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Eh bien, c'est très bizarre cet ajout de Bailey à la dernière minute sur la carte.
Et, ah oui, mais moi j'étais persuadé. Oui, désolé de t'interrompre, mais comme moi je n'ai pas présenté les derniers Raw, et quand je ne présente pas, généralement les Raw, je les regarde un peu de travers, voire je regarde que la moitié. Donc du coup, je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Peut-être qu'ils ont rajouté Bailey la semaine dernière ou quoi que ce soit. Mais non, apparemment ils l'ont bien rajouté cette semaine.
Oui, ils l'ont rajouté cette semaine. Alors bon, on était à San José, California, chez elle. Elle est venue faire son retour. Pour moi, si elle est prête, ça peut se justifier. Mais là, son retour, c'était pas du tout le retour de quelqu'un qui veut revenir dans l'équation. Elle est juste venue comme elle faisait il y a 2 mois, lever la main de sa copine Sasha Banks et l'aider à triompher des méchantes. Donc moi, j'aurais gardé le Fatal Four Way et puis Bailey, elle prend la gagnante en quelque sorte. Donc c'est un peu bizarre et ça.
Ah bah, clairement. Ouais. Non mais là il y avait un chemin tout tracé pour redonner de l'envergure à Bailey. C'était après il y a Asuka qui arrive, c'est ça l'emmerdant quoi. Mais c'était tout simplement faire gagner Nia Jax, parce que bon, on est pratiquement, enfin la je vais pas dire la grosse cote, mais de ce qu'on lit sur internet quand même, Nia Jax a des bonnes chances. Faire gagner Nia Jax et puis refaire, parce que ça fait 15 ans qu'on en parle, refaire cette rivalité Nia Jax-Bailey qui a marché, qui a très bien marché à NXT. Donc,
ouais, parce que en plus, Nia Jax, à Raw, je trouve son positionnement un peu bizarre. Elle a un peu un rôle de Monster Face parce qu'elle est. Ouais, on sait pas trop en fait. Oui, elle est un peu en train de taper des. Tout le monde, c'est un peu une Strowman mais qui fonctionne pas parce que le public adhère pas trop, elle exécute pas si bien que ça. Enfin, oui, moi je mettrais pas tout mais mettrais pas beaucoup de pièces sur elle si j'étais un créateur, un membre de l'équipe créative. Je la trouve pas, on la déteste pas spécialement non plus. Il faudrait qu'elle travaille un peu plus là-dessus peut-être. On n'a pas trop envie de la soutenir parce que c'est la Golgoth, donc on a envie de soutenir les faibles plutôt.
Ouais, ça je sais pas. Je veux dire, Braun Strowman c'est le plus grand babyface de la compagnie. Hein.
Oui, c'est vrai. Bon, mais là.
Mais, non, mais Nia Jax, je pense que il y a des gens qui sont fans de Nia Jax, mais je pense qu'ils sont fans de Nia Jax parce que c'est un phénomène, pas au sens phénomène médiatique, mais c'est un phénomène dans, il y a personne de ce style là dans les filles quoi, du coup il peut se passer des choses un peu inédites dans les matchs avec Nia Jax qui peut pas se passer dans les autres matchs, et voilà, c'est elle s'améliore dans le ring, bon, on dit ça. Il y a des périodes où on dit elle s'améliore et puis après pendant 2 mois elle va faire des botches. Donc du coup ça va, ça vient quoi. Mais non, mais le souci c'est vrai là-dessus, c'est que on nous raconte au départ que c'est Nia Jax contre Alexa Bliss. Donc du coup, faut même quand il y a deux heels l'un contre l'autre, on sait très bien qu'il y en a un qui est plus heel que l'autre.
Donc du coup,
clairement, on avait identifié Alexa Bliss. Voilà, c'est la plus heel. Nia Jax, c'est une, c'est un peu à la Strowman, c'est-à-dire que elle a la violence dans le sang, mais elle est pas vicieuse. Elle est un petit peu vicieuse, mais elle a rien à voir avec les manigances et tout ça, quoi. Ou la tricherie même. Donc voilà, on avait ça. Et après, on nous ramène donc du coup Bailey et Sasha Banks. Et du coup, Bailey et Sasha Banks s'associent avec Alexa Bliss. Alors qu'Alexa Bliss est celle qui a torturé Bailey. Enfin, je veux dire, qui s'est foutu de la gueule de Bailey pendant des mois. c'était, je veux dire, Alexa Bliss est censé être la pire ennemie de Bayley. Enfin, historiquement, c'est quand même celle qui l'a ridiculisée pendant des semaines et des semaines, qui est allée jusqu'à chercher des trucs, des souvenirs de son enfance, tout ça. Donc voilà. Donc elle s'associe toutes les trois. Déjà, bon, bof.
Sachant que dans le match, Sasha Banks, elle arrive quand même plutôt pour aider Nia Jax, pour repousser.
Oui, aussi. Ouais, c'est ça qui est contradictoire. C'est elle arrive pour que Alexa Bliss se prenne la raclée par Nia Jax. Après, elle attaque Nia Jax. Ouais, c'est ça vient en fait. C'est elles sont avec qui elles veulent, quand elles veulent. Bayley, on comprend pas trop bien du coup à la fin. Enfin, je veux dire, oui, il y a cette historique avec Alexa Bliss, mais là on comprend pas pourquoi gratuitement juste après s'être associé avec Alexa Bliss, elle décide de les deux de carrément lui foutre une raclée et la balancer dehors. Enfin, c'est encore une histoire de babyface qui font des trucs de heel, quoi. C'est
Ouais, c'est ça. Puis Bayley, elle a pas trop travaillé son regard méchant quand elle monte sur le ring. Ouais, j'ai toujours l'impression qu'elle va éclater en sanglots là quand elle regarde ses adversaires.
Ouais, non mais c'est Bayley. Et puis c'est Bayley, elle n'a pas changé. Non mais bon.
Babyface.
On verra bien. Donc voilà, au moins Emma sera une fois dans un pay-per-view cette année. C'est toujours bien. Non, peut-être. Je sais plus. Est-ce qu'elle a eu un autre match en pay-per-view? Je ne crois pas.
Oh, cette année, je pense pas, non. Mais voilà. Mais le match en lui-même, si on parle de ça, puisqu'on est sur le Go Home Show, ça peut être du bon match, hein. Fatal Five Way.
Mais c'est toujours le souci que j'ai. Enfin, on en reparlera à la fin de ce Raw, mais c'est un peu le souci que j'ai avec la WWE en ce moment, c'est que bien sûr que les affiches vont être bonnes, parce que quasiment tout le monde, tout le roster en ce moment est fait de bons. Très bon pour la majorité catcheurs, et que en ce moment, à part quelques petits trucs de jobber, mais sinon on a que des très bons matchs, quoi. Même à Raw, on a des bons et très bons matchs, quoi, en ce moment. Mais c'est juste que derrière, l'écriture, elle est moins. Enfin, c'est bref.
On va passer à la suite.
Ouais, voilà. On va passer à la suite. Donc, on a eu un long hommage à Bobby Heenan, le célèbre manager et commentateur, pour les plus vétérans d'entre vous, hein, moi ça date de avant que je regarde le catch, donc voilà, au niveau montage on a aussi eu un truc comparatif entre la carrière de Lesnar, enfin les débuts de Lesnar et le début de Strowman, l'ascension de Roman Reigns, l'ascension de Cena, hein, on a eu pas mal de parallèles comme ça, et puis on a eu toute cette séquence sur les tag teams. Alors ça a commencé avec Cesaro et Sheamus qui sont venus au milieu du ring pour dire que voilà, en ce moment tout ce qui buzz, bah c'est le revival, le rétro, pas les revivals, hein, parce qu'on les a toujours pas revus. non mais enfin bref, j'ai tellement la haine de ça que donc du coup le Shield, Rollins et Ambrose, les Hardy Boys, tout ça, voilà, c'est du rétro, c'est du recyclage. Et donc il y a Rollins et Ambrose qui arrivent, qui disent non mais nous on est simplement des frères, et puis on se part de, enfin les frères ils se battent de temps en temps, mais voilà, ça reste la famille, blablabla. Ensuite on a les Good Brothers, enfin le club, qui arrive et qui traite Rollins et Ambrose de nerd. Et alors là, à ce moment-là, Rollins il fait ah non, t'aurais pas dû dire ça, et puis Ambrose il commence à s'énerver, et puis il sort la phrase, alors si vous avez vu Retour vers le futur, en fait, il reprend un peu l'expression de Marty McFly, personne ne me traite de mauviette, hein, si vous la connaissez en français, et ben là, c'est personne ne me traite de nerd, et donc il s'énerve, la baston commence, et c'est parti pour un triple threat de tag team. Enfin, pas un triple threat, qu'est-ce que je dis, comment ils appellent ça?
Si, c'est ça.
Si, ouais, ils appellent ça un triple threat, mais c'est pas vraiment un triple threat, parce qu'il y a que deux tag team qui catchent en même temps, voilà, c'est j'avais déjà eu une...
C'est une règle à la con.
Ouais, voilà, j'avais déjà eu un bon 10 minutes dans un catch-up à parler de ce règlement que je ne comprends pas. Donc voilà, Cesaro contre les Good Brothers contre le Shield, ça va durer au bas mot environ 20 minutes, hein, un joli match avec beaucoup de suicide dive du Shield, hein. Ils font leur combinaison, tout ça. Le Cesaro qui massacre le crâne d'Ambrose sur le sol à un moment, hein, puis sur la barrière avec une sorte de voilà, un début de Cesaro swing. Il y a un très joli tornado DDT de Rollins sur Sheamus à un moment pour le contrer au milieu du ring. Hein, et puis une superplex d'Ambrose sur Gallows. Hein, j'ai noté parmi les jolis spots. À la fin, la confusion règne. Ambrose se fait taguer par Sheamus. Mais ne s'en rend pas compte. Donc Ambrose va faire pour un Dirty Deeds à Anderson. Il va pour le tomber, mais Sheamus le pousse. Sheamus fait le tomber de 3, victoire de Cesaro. Mais le match de dimanche, ce sera pas un triple threat, ce sera tout simplement le Shield contre Cesaro. Enfin, le Shield sans Roman Reigns, mais le Shield, quoi.
Oui, il manquerait plus que ça.
Qu'est-ce que t'as pensé du match, de la construction de tout ça?
Le match était très long, c'est le plus long match de la soirée, hein, je crois. Sûr. Moi je l'aurais trouvé encore meilleur s'il était raccourci de 4-5 minutes au début peut-être, parce que ces règles sont vraiment à la con, hein, donc ces mecs qui peuvent se taguer alors que c'est pas leur partenaire, on comprend rien. Du coup, tant qu'il y a des gens valides dans les coins, c'est un peu le bordel. Il peut pas se passer de spot dans les cordes parce qu'il y a toujours un mec pour taguer. Dès que ça commence un peu à faire du nettoyage et qu'il y a des mecs un peu morts autour du ring, ça devient plus intéressant. Mais ouais, c'était un beau match. Les équipes ont envoyé du bois. Et Sheamus et Cesaro sont quand même vraiment toujours bookés très fort. Hein. C'est vraiment une belle équipe.
Ouais.
Ça promet une belle affiche pour dimanche. Bon, le segment micro du début était moyen, quoi. Sheamus et Cesaro, encore une fois, eux, au micro, ils s'en fait
what méchamment. Ouais. D'ailleurs, ils en ont fait une petite référence à ça dans leur speech.
Ouais. Ils ont été assez drôles.
Moi, je les ai pas trouvés si mauvais que ça. Après, c'est juste que tu sentais qu'en fait, ils devaient toute cette soirée, en fait, c'est une soirée de remplissage. Le nombre de packages dans ce Monday Night Raw, de packages vidéo, il y en avait pour au moins 20 minutes de packages vidéo, je pense, dans ce Monday Night Raw. Et tu vois que là, c'est pareil, leur speech, ils ont rien à dire, ils doivent remplir pendant 5 minutes. Tu voyais clairement, ils avaient rien à dire, mais c'est pas de leur faute, c'est juste, on leur demande, vous passez 5 minutes à dire que, les équipes maintenant, c'est que des vieux trucs. Enfin, c'est que des trucs de nostalgique.
Ouais, c'est
et,
ça.
Et voilà. Et genre, ils donnent juste cette idée-là et vous passez 5 minutes là-dessus. Et c'est sûr que.
Puis je trouve qu'ils peuvent très bien jouer les heels sur le ring, mais là, ils font pas vraiment méchants. Enfin, ils sont pas tout à fait dedans. C'était pas terrible. Après, du coup, c'est pas mal qu'il y ait eu cette petite gag avec Ambrose, parce que je croyais que ça allait durer encore 5 minutes de plus là à se répondre. Non, c'est vite parti en baston, et tant mieux.
Mais autant Sheamus, il pourrait encore retourner, je pense, en heal. Autant Cesaro, moi, je vois pas comment il peut être heal. Hein. C'est pas possible. Cesaro, tout le monde l'aime, Cesaro, quoi. À un moment, WWE va le comprendre. Tout le monde aime Cesaro.
Je pense, ben on peut espérer que. En tout cas, rappelons-nous, c'était il y a presque un an maintenant, toute cette histoire, cette feud autour de Sheamus et Cesaro, ils ont quand même vachement bien réussi à les remonter d'un cran sur la carte. Hein. Ils étaient en mid-card, low-card à se faire chier.
La tag team, ça marche très très bien. Le truc, c'est que c'est pas une tag team de heel, quoi. C'est
ouais,
juste. Quand ils étaient en tag team et qu'ils étaient face, ils commençaient à avoir une grosse pop du public. Il y avait le chant Sheamus et Cesaro. C'était en train de monter. Je pense que ils sont plantés là-dessus, la WWE, mais peut-être qu'ils avaient aussi un impératif d'avoir une tag team heel en plus. En plus, maintenant qu'il n'y a pas le revival, tout ça, donc ils en ont besoin.
C'est ça. La blessure des revival a dû jouer, ouais, je pense. Parce qu'avec les Hardy et tout ça, trop de face.
Bref, est-ce que tu l'entends au loin? Est-ce que tu entends une musique drôle? Une musique.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, non, comique. Je crois.
C'est le Jobbers World! Le monde des Jobbers, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. J'arrête pas de la faire celle-là. Le Jobbers World!
Alors, au menu cette semaine.
On a Goldust qui demande de se venger de Bray Wyatt qui l'a défiguré la semaine dernière, hein, pour prouver que les mecs qui se maquillent comme Finn Balor, bah c'est que des hommes, pas des monstres. Donc Kurt Angle, et bah il accepte, hein, il lui dit Goldust, c'est super dangereux, mais vas-y, va te faire défoncer par Bray Wyatt. Donc le match sera dominé par Goldust jusqu'à la victoire de Bray Wyatt. On a eu aussi un clip de Finn Balor juste à la fin de ce match. Finn Balor qui s'est dit quelle bonne gimmick je vais pouvoir piquer à WWE si je prenais les vidéos du Titantron à la fin des matchs comme fait Bray Wyatt pour parler à ses adversaires. Donc du coup, il a décidé de faire la même chose. Et puis il lui parle de tu sais, quand j'étais petit, je lisais des bouquins de mythologie. Et les bouquins de mythologie, il y avait des monstres dedans. Alors je m'en suis inspiré. Et puis tu sais, je vais te poser une question qui va te faire super peur. Mais qui c'est le pire? Est-ce que c'est le monstre ou est-ce que c'est le créateur du monstre? Donc voilà. Merci Finn Balor. Kurt Hawkins est venu au centre de l'arène pour fermer la Star Factory qui ne fonctionnait pas à plein régime ces derniers temps. Et il va ouvrir la machine à moment historique en nous annonçant la fin de sa suite de défaites incroyable. Hein, parce que je sais plus combien il donne, 100 et quelques défaites.
114.
114, t'as noté. Donc voilà, il défie le Locker Room. Hein. Qui veut me challenger, c'est Apollo Crute qui arrive avec Titus O'Neil. Le match dure un peu plus longtemps que d'habitude hein, pour Kurt Hawkins, il a le temps d'avoir un petit peu d'offense, mais forcément, Cruz gagne. C'est la fin du Jobber's World. Voilà. Est-ce que t'as un mot sur ce Jobber's World?
Non, c'est vrai que ça mérite d'être dans le Jobber's World, malheureusement, même si... C'est pas inintéressant de voir Dustin Rhodes devenir autre chose que Goldust.
Oui.
C'est la petite surprise inattendue, mais à part ça, ça avance pas trop et c'est un peu dommage de gaspiller ce vétéran là en 5 minutes au milieu d'une feud qui est, comme tu dis, un peu pourrie.
Mais ce qui est important, c'est quand même de voir Bray Wyatt se faire malmener par un vieillard. Hein, ça c'est ça c'est important de montrer ça.
Oui, parce qu'il a fait une prise, quoi, Bray Wyatt.
Télévision, mais bordel de merde. Oh là là, mais non. Enfin bref, je vais pas en parler, mais j'ai même plus envie de parler de Bray Wyatt. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose avec Bray Wyatt d'intéressant, j'ai plus envie d'en parler.
D'accord, passons à la suite alors.
On a une interview de Brock contre Braun. En face à face, pas vraiment face à face, face caméra, enfin bref, vous connaissez le truc où genre ils sont filmés mais ils font semblant de se voir dans les yeux, on comprend jamais. du coup, c'est Braun qui dit qu'il a prouvé, enfin donc Michael Cole qui fait l'intervieweur. Et Braun répond qu'il a prouvé des semaines et des semaines qu'il maîtrise Brock Lesnar, qu'il est le seul à pouvoir détruire la Beast. Et puis voilà, c'est tout. Et Lesnar, il y a Paul Heyman qui dit oui, qui monte encore un petit peu l'aura de Strowman en disant oui, c'est vrai que t'as montré que t'étais dominateur, c'est vrai que machin, etc. Mais il y a Suplex City, mais machin et tout. Et puis à la fin, c'est Lesnar qui prend la parole, qui se rapproche de la caméra et qui dit Braun, je voulais te remercier de m'avoir poussé à mes limites, car je ne suis jamais meilleur que lorsque je suis en danger, quoi, on va dire. C'est à peu près ce qu'il lui dit. Donc voilà, c'était la petite séquence pour nous hyper, s'il était nécessaire de nous hyper pour ce match. Qu'est-ce que t'en penses, Raph?
La séquence interview était pas mal, moi j'ai trouvé qu'ils ont été assez bons. Et le seul truc qui est dommage, Lesnar, il a vraiment fait une belle intervention dans le sens où d'habitude sa voix casse un peu tout son personnage, je trouve. Mm-hmm. Alors que là, il a eu une voix très douce qui était limite, ouais, vraiment flippante, c'était vraiment très froid. Le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'il soit parti et après il revient. Juste pour dire cette espèce de catchphrase qui est maintenant son personnage.
Ah ouais, Suplex City Beach, oui, moi ça c'est...
Suplex City Beach, bon, je trouvais un peu dommage que ça retombe dans un truc très très attendu, mais sinon, t'as dit ce qui était vrai, hein, on était déjà hypé, donc ça a hypé un peu plus, et Braun était assez effrayant.
Ouais.
Il tenait bien son micro, il a beaucoup de qualité ce jeune garçon.
Il sait bien espacer ses mots en fait, c'est ça qui est c'est très con à dire, mais en fait Strowman, déjà c'est un mec, faut le faire parler le moins possible. C'est pas parce qu'il est mauvais au micro qu'il faut le faire parler le moins possible, mais c'est parce que son personnage veut que c'est pas un mec qui va parler, quoi. Donc du coup, je trouve qu'il s'est vachement bien débrouillé pour les quelques lignes qu'il avait. Et surtout les mimiques faciales, en fait, il était de plus en plus. Il passait entre l'énervement, enfin entre la haine et de temps en temps ça basculait vers la moquerie, quoi. Et vers la fin, il avait un petit sourire. Donc c'était plutôt
ouais, c'est
sympa.
bon.
On sentait bien quand même que dans cette interview, Lesnar, il était pas. On voit que c'est le côté Heyman Lesnar qui est en train de flipper plutôt que Strowman. Hein. Strowman, il est sûr de lui.
Ah oui, complètement, oui.
Donc voilà. On va passer à la meilleure séquence de ce Monday Night Raw pour moi. Mais c'est Roman Reigns qui arrive dans l'arène. Et oui, c'est Roman Reigns, ma meilleure séquence. Il arrive dans l'arène, super content que Cena soit pas là ce soir. Hein. On sent. J'ai senti sur son regard un bonheur. Et donc, il arrive et puis il commence en disant vous savez, Cena, il pense que je suis justement le nouveau Cena, la copie ratée de Cena. Mais moi, je ressemble pas du tout à un John Cena. Hein. Et d'ailleurs, si j'étais grand, blanc, musclé, baraqué comme pas possible, et que j'avais une coupe de patriote, j'aurais déjà été viré. Demandez à Alex Riley. Boom! Burn!
Allez, punchline.
Alors,
Shoot.
ce qui est dommage, c'est que Roman Reigns, il a mis. Il est arrivé avec la van shoot qu'il fallait, mais il est en retard de 2 semaines. Donc du coup, c'est
Ouais, ça fait
dommage.
ça faisait un peu quand tu vas te coucher le soir et que te vient la répartie que t'aurais dû sortir à ton patron, à un flic ou je sais pas quoi dans la journée et t'as pas su quoi lui dire. Et tu dis, oh putain, j'aurais dû dire ça. Et ben non,
Voilà.
ben là ça fait un peu.
Voilà, il a potassé son dossier Cena, mais trop tard. Non mais voilà, c'était plutôt bien placé. Après, donc du coup, j'ai noté les Smart Exult, mais la majorité de l'audience doit pas comprendre, hein, parce que bon, pour les gens qui savent pas, même les gens qui suivent le catch, hein, savent pas forcément en fait. Ça a jamais été vraiment prouvé, mais on sait que il y a une histoire entre Alex Riley et Cena, comme quoi. Cena s'entendait vraiment pas avec Riley et que Cena aurait participé au fait que Riley a été viré de la compagnie. Enfin, viré, du moins a été. Si pendant un temps, je sais plus. Pendant un temps, il était plus à WWE, il a été quand même ramené à NXT, mais finalement, ça a pas.
Il a été un peu bâclé quoi.
Ouais, voilà.
Il a rien fait dans le roster principal et après il était commentateur. Il a repris une petite carrière catcheur. Pourtant, c'est vrai qu'il avait du potentiel, mais bon,
Ouais, voilà.
on le revoit
Moi, je
plus.
trouve plutôt sympathique. D'ailleurs, si vous si vous aimez bien Alex Riley, vous pouvez le retrouver dans Glow, dans la série Glow. Il a un petit rôle qui est plutôt sympathique, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il jouait pas trop mal. Bon, bref, on va revenir à nos moutons. Donc Roman Reigns, il rappelle que Cena critiquait le Rock, hein, pour être part-timer là en 2012, à l'époque du Once in a Lifetime. Qui est devenu Twice in a Lifetime. Mais bref, il montre des images datant de la Road to WrestleMania en février 2012, hein, un passage qui montre donc du coup Cena qui se moque du Rock, qui justement en fait sort exactement le speech qu'a sorti, enfin quasiment le speech qu'a sorti Reigns sur Cena, c'est-à-dire bon, toi tu viens, tu fais tes petites gimmicks, hein, t'arrives, tu fais tes petites pauses et puis t'es content que le public soit là, mais bon, le business, ça t'intéresse pas, t'es pas là pour faire vivre la WWE, t'es là pour prendre ton chèque. Et
Oui,
donc,
t'es là pour faire la promo de ton film, quoi.
ouais, voilà, t'es là pour faire la promo de ton film. Bon, là pour le coup, bon, c'est pas exactement Cena parce que Cena il a pas encore de film, mais c'est bientôt là. Je crois qu'il est dans Transformers, c'est ça. Donc,
Peut-être, oui, je sais plus.
Roman finit par dire que cette fois-ci, ce sera comme la dernière, c'est-à-dire que ce sera un autre Samoan qui va le mettre à terre. Donc voilà, si l'histoire sera la même, le Samoan sera différent. C'est tout. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite promo de roman?
Bah ma foi, c'est vrai que ça faisait très séance de rattrapage, quoi. C'est vrai qu'il a pris plein la gueule, il n'a pas réussi du tout à tenir debout face à John Cena. On dirait qu'on a été que la Creative Team a été un peu sympa et elle lui a dit, bon, allez là, avant le pay-per-view, tu te remontes un peu, on te laisse faire ce que tu as envie de dire. Bon, en soi, son angle d'attaque est pas très original. C'était quelques shoots, effectivement, puisque c'est le ton de la FUD. Comme tu dis, c'est pas tout à fait comparable au Rock, parce que Cena, il est quand même là plus souvent, et il a pas vraiment des films non plus hollywoodiens en permanence. Mais bon, ça remonte un peu
Non, mais
Roman
ça marche
Reigns.
bien, et puis surtout, je crois qu'on en parlait avec Ringside au moment de la première promo. Peut-être, je crois que c'est Ringside qui disait que, oui, il disait directement, oui, ils essaient de refaire le Rock contre Cena, et c'est là que du coup, tu te dis, mais si vous voulez faire le Rock contre Cena, il aurait dû l'attaquer direct là-dessus. Enfin, il aurait dû partir direct sur cet angle-là et rappeler justement le. Parce qu'au début, on a l'impression que genre ils veulent pas rappeler qu'il y a eu le Rock Cena parce que les gens vont se rendre compte, ah bah ils sont en train de refaire la même chose. Mais là, pour le coup, ils ont accepté d'en parler, même de montrer les images. Donc pourquoi il aurait dû, enfin, on aurait dû l'autoriser à sortir ça dès genre la deuxième semaine, quoi.
Bah après, il y a entre le Rock et Roman Reigns, c'est aussi un peu délicat parce que les smart savent qu'ils sont un peu liés quand même génétiquement, et donc il y a un peu ce côté famille qui aurait pu l'aider à faire sa carrière à Roman Reigns. Donc c'est délicat aussi comme angle. C'est ce qui s'est passé au Rumble l'année où le Rock est venu sauver son petit cousin ou son petit neveu. Mais ma foi, pourquoi pas, oui, ils auraient dû partir là-dedans de suite, le côté c'est vrai que c'était je m'étais pas rendu compte, mais avec les packagings de ce Raw, c'est vrai qu'on a deux feuds qui sont assez similaires, où c'est un peu la vieille légende qui se fait face à son lui 2.0, quoi. Brock Lesnar contre Strowman, et là John Cena Roman Reigns. Ouais, on est sur un pay-per-view un peu thématique passation de pouvoir. Alors à voir si le pouvoir va vraiment changer de clan ou si les anciens vont tenir la baraque. Je ne sais pas. Quel est ton prono, toi, tiens, pour Cena Reigns?
Le truc c'est que on va peut-être faire les pronos à la fin. On va peut-être faire les pronos à la fin du podcast plutôt
Ok, on garde
comme
des
ça
pronos à la fin.
on fera toute la carte
Super.
pour terminer mais je pense que Cena gagne. Ouais, mais bon. Donc on a eu aussi Enzo Amore qui est venu faire son petit cacou hein, comme d'habitude. Il a le temps à peine de faire sa promo et puis il se fait défoncer par Braun Strowman hein, qui arrive derrière lui. Le public, je crois entendre des thank you Strowman. Hein,
J'ai entendu la même chose.
tu
Je
disais?
confirme. J'ai entendu la même chose. Je
Ouais.
confirme qu'il y a eu des Thank you, Strowman.
Donc voilà. Ensuite, bah on a Neville qui arrive, hein, qui est tout rigolard. D'ailleurs, on a un joli comparatif entre la carrure de Neville et la carrure de Strowman. C'est assez effrayant. Hein. Genre, Strowman, on a l'impression qu'il a 1 mètre de plus que Neville. Et puis donc du coup, voilà, Neville qui arrive parce que bah c'est l'adversaire de Enzo à nos merci. Hein, Enzo qui a eu une opportunité à la ceinture, hein. Demandez pas pourquoi, regardez peut-être tout Five Live ou pas, hein. Donc voilà. Donc voilà, Neville, bah, il détruit un petit peu plus Enzo avant de commencer son match, puisque Neville a un match contre Grand Metalik. Une affaire qui est vite expédiée, hein. Il se concentre sur le masque de Grand Metalik, hein. Il réussit quasiment à lui retirer genre la moitié de son masque. De son côté, Metalik fait de jolies acrobaties, hein. Il y a une sorte de flip. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'embête à la WWE. C'est le nombre de fois où j'ai envie de savoir le nom d'une prise. Et Michael Cole, il fait juste wow!
Ouais,
Et donc
bah,
là.
c'est les commentaires de Raw, quoi.
Voilà. Et donc là, il y a Grand Metalik qui a fait une sorte de. Alors il rebondit sur la première corde. Il est à l'intérieur du ring. Il rebondit sur la première corde et ensuite il fait un flip au-dessus de la troisième corde vers l'extérieur. Et c'est assez, voilà, c'est assez impressionnant. Il fait ça très rapidement. Mais
C'est joli.
ouais, voilà, c'est très joli, mais ça ne suffira pas. Il finit dans le ring, Zob Saturn de Neville. Il tape, victoire de Neville. Donc voilà, et on se retrouve donc du coup dimanche pour ce Enzo Amore contre Neville. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus?
Non, ben si ce Gotham Show nous spoile le fait que Neville va garder la ceinture et partir en fait plutôt contre Grand Metallic, ça me va très bien parce que Enzo Amore est bien sympathique, mais je ne vous vois pas. Il faut, c'est pas possible qu'on lui donne cette ceinture-là, qu'on lui donne une ceinture tout court d'ailleurs, à part tag team à la limite avec quelqu'un,
Une
mais.
ceinture en chocolat.
Ouais, non, c'est bon, c'était bizarre comme choix là de le faire venir juste pour le faire taper, se faire taper par Strowman. Je sais pas trop quel était le but, si c'était de renforcer Strowman en tant que heel, ce qui me paraît vraiment bizarre. On en a déjà discuté ces 2 dernières semaines avec Ringside et Amiral. C'est le mec est soutenu par la foule. Ils veulent vraiment en faire le méchant. Bon, je sais pas. Puis
Je
avec
pense
tout
qu'il
ce qu'on
teste,
sait. Ouais.
peut-être que semaine après semaine, il teste de plus en plus la popularité d'Enzo et ils vont réussir à l'enfoncer assez. Depuis, à chaque fois, il teste et là, finalement, la pop, entre guillemets, d'Enzo à son entrée, comparée aux gens qui ont crié Thank you Strowman, je pense qu'il y a plus de gens qui voulaient pas voir Enzo que de gens qui voulaient voir Enzo dans la salle. Mais bon.
Ouais, peut-être pas encore, mais c'est
Enfin ouais
sûr
non
que.
c'est bon, on va dire c'est moite-moite quoi. Mais ouais non mais bon là c'est je sais pas ce qu'ils peuvent faire avec Enzo en ce moment mais en tout cas il est voilà, il est chiant quoi. Chaque fois qu'on le voit il est chiant hein. Il est pas amusant, il y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire vraiment passionnante, c'est juste un gars qui
Bah, tu dis
va
toujours la même chose.
C'est juste un gars qui a une opportunité un peu gratos d'avoir d'être dans un match de cruiserweight et juste parce que voilà c'est Enzo Amore et qu'il a rien d'autre à faire donc bon
Bah, il
moi
marche sûrement beaucoup auprès des jeunes enfants. Il a du merchandising, il a des
oui oui
t-shirts, il
oui
a sa
oui
coiffure, ses faux cheveux là, tous ces trucs horribles,
oui
ses catchphrases, ça marche, mais je comprends pas pourquoi ils ont décidé que la place de ce mec-là était meilleure tout seul qu'en équipe, parce qu'en duo ça passait très bien. Enfin, ça passait bien quoi, ça passait mieux.
Ouais, mais de toute façon, même s'ils veulent reconstituer, même s'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils veulent reconstituer le Enzo Incas, ça va encore prendre du temps parce qu'il est sur la civière pendant combien de temps encore, Cass,
Oh, longtemps, je
je
crois.
pense que c'est plusieurs mois.
Ouais, moi ouais, il
Parce
pourrait aller trouver
que
quelqu'un
voilà,
d'autre, mais.
il s'est bien pété la jambe. Bon, allez, on va passer au main event. Ça commence avec Elias Sampson qui vient chanter comme d'habitude un petit morceau sur ses adversaires, mais surtout sur Jason Jordan. Donc voilà, il se fout de la gueule de la ville, hein, de San José. Il dit je suis venu ici en pensant que je serais dans la Silicon Valley et que il y aurait que des millionnaires de la venue voilà des compagnies de high-tech et tout ça et puis finalement et ben voilà je suis en face d'un public de losers et puis à un moment bizarrement alors j'aimerais comprendre pourquoi il a fait ça mais à un moment il a regardé un gars il dit hé hey, gamin si tu me regardes encore comme ça je te ferai virer toi et ta mère de San José. Alors je sais pas pourquoi il s'est énervé comme ça, si c'était peut-être juste pour se monter un petit peu la hit, mais bref.
Oui, j'ai pas compris spécialement non plus, mais bon.
Donc Six Packs Challenge. Alors je rappelle donc du coup on a Elias Sampson, on a Curtis Axel, on a Bo Dallas, on a les Hardys et on a Jason Jordan.
Ouais, on les a tous.
C'est dominé d'abord par Elias Sampson hein, qui fait une belle impression, beaucoup de clothesline, très stiff et puis à un moment le mistourage s'allie pour l'arrêter. Et puis s'occupe ensuite bah, de Jason Jordan qui à un moment se retrouve posté sur un poteau. Hein, il se prend des coups par le mistourage. Et c'est les Hardys qui arrivent par derrière, qui portent tout ce petit monde et qui font un superplex avec toute la compagnie là. Un peu plus tard, c'est au tour de Jason Jordan de souplexer tout le monde, mais le Miz vient intervenir. Il prend à l'extérieur du ring et il le balance dans la barricade, puis ensuite dans le public pour bien le neutraliser. Jeff Hardy, un peu plus tard, nous offre une très belle séquence hein, avec son frère. Et puis, où il y a aussi un petit moment où Matt tente un roll-up sur Jeff Hardy. Bon, gentiment, mais donc voilà, Jeff est vraiment le héros de la fin du match. Hein, et puis alors qu'il tente de poser sa Swanton Bomb, enfin il pose sa Swanton Bomb sur Curtis Axel. Il lance son tombé, mais le Miz intervient pour l'en empêcher. Donc Jeff s'occupe du Miz, hein, il balance le Miz dehors. Axel attrape Jeff par derrière, il lui fait un faceplant. Mais là, Jason Jordan passe derrière. Donc du coup, il passe derrière Axel. Il lui fait un neckbreaker. 1, 2, 3, victoire de Jason Jordan. Tout se passe comme prévu. Oui. Qu'as-tu pensé du match? Et puis on parlera du résultat après. Moi,
bah, le match c'était pas terrible pour un main event, j'ai trouvé. Enfin, moi j'ai pas été emballé. Pourtant, normalement, quand il y a plein de monde sur un ring à la WWE,
il y avait pas beaucoup de concurrents crédibles, c'est ça le problème.
C'est ça. Bah, c'est ça. Déjà, le suspense, comme j'ai dit, il était tué. À la limite, on pouvait. J'en raccordais 2-3% de crédibilité à Jeff Hardy vu qu'il était un peu dans le game il y a quelques semaines, mais pas plus. Et donc il y a eu quelques beaux moments. Moi je suis globalement plutôt, je dirais pas convaincu ni séduit, mais pour le moment Elias, je trouve que ça passe. Il a un style stiff dans ce genre de match, ça va.
Ouais. Il est pas. Bah, ça cache bien ça. La limite de sa panoplie, quoi.
Bah il a une panoplie très limitée, je pense que c'est sûr, mais là ça colle bien à son personnage et il fait ce qu'il a à faire plutôt bien. Les Hardy sont, surtout Jeff, effectivement assez bons, hein. Ils sont pour le moment, ils tiennent leur rang, c'était un beau match de leur part, mais il n'y avait pas de suspense, il n'y a pas eu énormément de folie, il n'y a pas eu c'était pas un grand main event d'Euro, quoi. C'était moyen sur le contenu du match, en tout cas. Après, sur le résultat, bah, comme j'ai déjà dit, hein, c'était hyper attendu. Forcément, le Miz voulait tout sauf Jason Jordan. Il a eu Jason Jordan en face qui a fait pareil ce qu'il sait faire, hein, des souplexes. Et ouais. Puis voilà. Et puis enlever son haut là, en enlevant ses bretelles et en poussant des cris au moment où il va porter un nouveau coup de bélier. Ça doit marcher un peu auprès d'un certain public, mais c'est pas non plus il y a pas non plus la folle adhésion. Hein. Ça fait très bon, c'est pas le même niveau que Roman Reigns, c'est pas
ouais,
la même chose.
Ouais, c'est très mitigé. Hein,
ça fait très make Jason Jordan look strong. Il faut vraiment qu'il apparaisse comme le plus fort de tous. Et bon, bah c'est moyen. Moi, j'adhère moyennement pour le moment au traitement du personnage.
Je comprends pas comment ils ont pu imaginer qu'un personnage de fils à papa pouvait devenir un babyface. Je comprends pas la logique. C'est oui, alors parce que c'est le fils de Kurt Angle, donc du coup on va l'aimer. Non, ça marche pas. Puis surtout tout le monde, personne n'y croit. C'est pas une question d'y croire, mais c'est qu'il y a un minimum de. Il y a forcément un minimum de crédibilité dans le catch pour qu'on puisse suivre quelque chose, quoi. Dès que quelque chose est vraiment trop trop à l'ouest ou trop débile, soit c'est drôle et du coup ça marche, ou alors soit c'est pas censé être drôle mais du coup ça marche pas. Mais là pour le coup Jason Jordan ça marche pas. Enfin ringside. Ringside était encore plus, je pense, sévère que moi là-dessus, mais j'avais le vague espoir quand ça a commencé que ça parte vers quelque chose de beaucoup plus alambiqué. Enfin bon, moi je me faisais des idées comme quoi Jason Jordan allait devenir en fait une espèce de heel, mais qui arriverait à cacher son côté heel à son père, et donc du coup son père le soutiendrait, mais en fait ce serait un gros enculé.
Alors on peut encore, on sait pas hein, ce qui va se passer, ouais. On peut imaginer... Imaginons, la WWE nous fait rarement ça, mais peut-être une écriture sur le très long terme où ils envisageraient, oui, peut-être qu'il va gagner ou perdre la ceinture intercontinentale, mais qu'il va Il va tout en disant qu'il ne veut pas du tout le soutien de son père et prouver ce qu'il fait sur le ring, en demander de plus en plus et délicatement des petits passes droits, des petits trucs, des petits machins, et que son père, comme a dit le Miz, hein, qui se sent un peu, qui regrette d'avoir passé plus de 25 ans sans l'avoir vu, va lui accorder ça. Mais bon, ça serait espérer une écriture sur le long terme avec un heel
Ouais.
turn peut-être dans 6 mois. Je suis pas sûr qu'on puisse y
Ou
croire en fait.
alors qu'il gagne la ceinture et que ça lui monte à la tête et que donc du coup ils disent bah j'ai plus besoin de toi, Kurt, je t'ai utilisé depuis tout ce temps et machin.
Oh non, tu veux pas qu'il nous refasse le segment entre Charlotte et Ric Flair quand même?
Ouais, mais bon,
You're
qu'est-ce
dead
que
for
tu
me.
veux hein, faute de gris, on mange des merles. Du
Ouais.
coup, je préférerais ça à le fait qu'on essaie de nous faire passer Jason Jordan pour un babyface parce que ça ne marche pas. Et quand ça marche pas, c'est pas en forçant que ça va marcher.
Non, mais je pense qu'ils, si ça continue à pas trop marcher, ils vont partir sur cette voie.
Ou
Peut-être qu'ils ont
alors
plus.
ça va marcher, mais dans 3 ans, quoi, genre Roman Reigns.
Ouais.
Il va falloir 3 ans pour qu'on commence à le respecter.
Ouais, ils doivent avoir
Non.
plusieurs scénarios possibles selon le public, on verra. Mais là, ça nous fait un peu comme le début du New Day. Ouais, on a des mecs. Le New Day au début, c'était un peu pareil. C'était des mecs qu'on aimait bien ensemble. Ils se sont dit, on met des mecs qu'on aime bien ensemble. Et puis, bah, il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça. Et,
Ouais,
sauf que c'était chiant.
mais la différence c'est que le New Day ils savent écrire.
Oui, ils ont
C'est les
corrigé le
mecs qui
tir.
écrivent eux-mêmes. Enfin, je vais pas dire ils font tout eux-mêmes, mais clairement c'est des gars qui savent écrire, c'est des gars qui savent improviser. Tu les vois
Maintenant, oui.
dans Up Up Down Down ou même dans la promotion là pour le nouveau jeu 2K 18.
18.
Il y a des interviews comme ça de médias ou de youtubeurs et tout ça. Dès qu'on les voit, mais ils sont on fire. Les mecs, ils balancent des vannes tout le temps. Mais ça, rien n'est écrit. Mais c'est juste, ils sont faits pour être ensemble. Enfin, hilarants. Pas tout le temps, mais on va dire que voilà, ils ont une répartie de fou sans avoir de texte. Donc et Jason Jordan, c'est un rookie tout seul. Et puis c'était un peu dans les deux entre Jason Jordan et Chad Gable. Jordan, c'était quand même le mec un peu plus émotif, un peu plus. Tu sentais que c'était le mec un peu plus fragile, quoi. J'ai l'impression au niveau pas enfin psychologique, ça fait un peu sérieux, mais je pense pas que c'est celui qui avait le plus confiance en lui, quoi. Dans les deux, donc
Ouais, c'est celui qui faisait le plus débutant. Ouais, Chad
voilà.
Gable, il fait un peu routier, enfin.
Ouais. Gable, lui, c'est un autre truc. C'est genre, il était à deux. Je crois qu'il était à deux doigts de se faire jeter par la WWE pour je sais plus quelle raison d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, c'est la tag team qui les a réunis. Le seul truc, c'est que après, ils ont pas su les écrire dans le main roster. Pourtant, c'était des méga stars à NXT, quoi. Donc,
Ah oui, complètement, oui, là.
voilà. Du gâchis, du gâchis. Bon, allez, on va passer au top, au flop, à la note. Le mot de la fin, je te laisse commencer, mon cher Raph.
Ah bah merci bien, parce que j'avais pas préparé spécialement
Ah
et
merde, tu veux que je commence? Bon, bah, je
non,
commence.
non, j'y
C'est comme
vais
tu veux. Vas-y.
comme ça, de tête. Le top, bah, on l'a dit, moi je vais le donner à Braun Strowman pour sa courte apparition, mais tout à fait efficace, pas pour taper la gueule à Enzo Amore, hein, mais dans l'interview avec Lesnar. J'ai bien aimé ce court passage de Strowman, qui est effectivement une menace évidente pour Lesnar. Enfin, les deux, l'interview croisée était pas mal. On va dire que c'est ça que je ressors. Il y a eu des bons matchs aussi, mais bon, bah, c'est le main event et ça va être une très grosse affiche. Le flop, bah oui, j'ai envie de dire Bayley, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils nous la renvoient de suite, ils nous la gaspillent. Enfin, ils nous la gaspillent. Oui,
Non,
c'est
mais
très mal
oui, non, je
écrit.
suis d'accord avec
Oui,
toi.
on comprend pas qu'elle soit venue juste en mode ah, c'est mon retour, hometown girl. À San José, je viens aider Sacha Banks et tout, mais qui nous la foutent de suite dans la carte sans
Non, puis
explication.
ça sert à rien. Puis surtout, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'elle arrive et puis il y a Sacha Banks qui la prend dans les bras, comme si.
Oui, je sais que ça.
On a l'impression qu'il est Hulk qui est faible. Il dit une kayfabe. Je dis, ok, son ami, mais c'est, on n'en est pas on n'est pas au collège, quoi. C'est pas genre, j'arrive dans le ring, oh, trop contente de te voir, oh, machin. Ouais. C'est, non, c'est oui, enfin, bah... bref, c'est insupportable. Ils font oui. ça tout le temps.
Voilà. Bailey, c'était, donc, je pense que tu vas partager alors peut-être mon flop du coup. Donc, moi, je vais rester sur Bailey. Et une note, eh bien, écoute, j'ai pas beaucoup d'imagination ces temps-ci pour les notes. C'était un Raw moyen avec pas beaucoup de trucs lamentables. On est loin d'une période où il y avait vraiment des segments très très gênants. Mais il n'y a pas grand-chose de ouf, quoi. Comme tu l'as dit, ils ont un très bon roster. Ils ont des mecs qui sont très bien placés. Enfin, Rollins et Ambrose, c'était une super idée de les remettre ensemble. Sheamus et Cesaro, ça marche bien ensemble. Strowman et Lesnar, voilà, c'est du très très lourd main event. Mais c'est pas magique quand même. Il y a pas. Donc moi, je mets 2,5, je mets la moyenne parce qu'il y a pas. Ça devrait être une putain d'histoire là, une putain de feud pour. Enfin, des putains de feud pour un très gros pay-per-view. Et là, on se base. On joue facile, je dirais.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, mon flop. Qu'est-ce que ça va être, mon flop? Mon flop est dédié à la carrière de Bray Wyatt. Non, j'ai qu'à. Mon flop.
Bah, en tout cas, actuellement, oui, c'est pas terrible.
Mon flop. Ça va être sur les filles, en fait, mais c'est. C'est un flop, pas ça va pas être sur le catch. Hein, elles vont faire un bon match, hein, c'est sûr. Peut-être même plus qu'un bon match à No Mercy. C'est juste l'alignement en fait. C'est l'alignement des filles au niveau heel, face, enjeu, qui veut quoi, etc. C'est le flou intégral. C'est ça change tout le temps. C'est on va s'allier avec truc, mais en fait non parce que c'est une île. Ah mais cette fois-ci je m'allie avec telle île, mais l'autre fois je vais m'allier avec telle autre île. À la fin de la séquence, je vais faire quelque chose qui est purement île, c'est-à-dire frapper quelqu'un en dehors d'un match, pour, gratuitement quoi, sans aucune véritable raison. Voilà, c'est idiot. J'aime pas ce genre de choses où on bizute des gens. Ça me rappelait un peu une époque de New Day,
ouais.
Une époque où New Day était face et faisait des trucs de bizutage à l'équipe adverse. Ouais, voilà. Et c'était, je trouvais ça gênant, quoi. C'est vraiment, tu peux pas faire une équipe de gentils qui fait du bizutage, même c'est contre vrai. Des heels, quoi. Donc.
Et je profite de ton flop et du mien pour saluer le courage et la passion de ce monsieur dans le public qui avait sa pancarte I pay to see Dana Brooke. Je sais pas si tu l'as vu. Ils l'ont filmé 3 ou 4 fois et je me suis dit que le pauvre il avait payé pour rien. Mais bon, il faut en vouloir quand même.
Je ne vais pas lancer de vanne, mais j'avais une vanne. C'est pas grave. Donc voilà, et le top, qu'est-ce que c'était le top? Bah oui, c'est le top, c'est, je le confirme, c'est les 2 minutes de Roman Reigns, qui, malgré l'absence de Cena, qui du coup était assez révélatrice dans le genre, bon, on va te laisser faire tranquillement ta promo, voilà. C'était une bonne promo et, heureusement qu'ils ont laissé Reigns en placer une et avoir le dessus un petit peu avant le pay-per-view, l'histoire qu'on n'ait pas l'impression que il va à l'abattoir, quoi, parce que on avait un peu l'impression les semaines d'avant que voilà, c'était un peu l'enterrement de Reigns jusqu'à ce que Cena parte pendant quelques mois autre part, mais là voilà. Et ma note, franchement, en fait, je vais retirer 1,5 point. J'avais mis 2,5. Je vais retirer 1,5 point juste à cause de Jason Jordan parce que j'ai pas envie de voir Jason Jordan contre le Miz. C'est vraiment un match qui m'intéresse pas. On sait très bien qu'il va y avoir le Miz tourage. On sait très bien comment ça va se passer. Et puis Jason Jordan va finalement quand même gagner malgré les interventions, tout ça. Enfin bon, je le vois comme ça. Donc voilà, ça me branche pas du tout. C'est à ce moment que je vais regarder la carte de No Mercy, à moins que tu l'aies devant toi, mon cher Raph.
Je ne l'ai, Je ne l'ai pas devant moi, non. Alors, pendant que tu es en train de chercher la carte de No Mercy,
Oui.
j'aimerais quand même soulever une question que je me suis posée, j'ai pas eu le temps de checker.
Oula.
Est-ce qu'il y a une justification sanitaire à la disparition de Samoa Joe, ou est-ce que c'est juste qu'on ne sait pas quoi en foutre?
Oui, il a eu une blessure, mais je sais plus à quoi. Mais oui, il a eu une blessure il y a quelques semaines.
Ah,
Donc
d'accord,
oui,
ok.
c'est normal. C'est pour ça qu'il a été écarté. Il devait être dans le match avec Cena. En fait, il y a eu un main event. C'était quoi le main event? C'était Cena contre.
Bah, il y a eu le match. Ah, mais non, bah le. Bah non.
Non, mais
Ah,
c'était le
mais.
main event de Raw en fait. Il y avait un main event de Raw en fait.
Ah,
Normalement, ça
Team.
devait être Cena contre Samoa Joe. Et en fait, finalement, ça a été remplacé par. Je sais plus, bah, je crois un tag team match en fait avec Cena, Reigns et. Je crois que c'était ça. Enfin, je sais plus, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines. Mais Samoa Joe est blessé, ouais. Ça, c'est sûr.
Ah, bah, c'est bien triste.
On passe au prono, donc du coup, voilà, petit. D'habitude, on le sépare du Monday Night Raw, mais je pense pas qu'on aura le temps de faire une vidéo séparée ou un enregistrement séparé. Donc les pronos, très vite, à deux. Alors, bah on passe. Non, alors, je vais commencer par le petit match, voilà. Enfin, le petit match. Le Miz contre Jason Jordan, qui tu as?
Moi, je vais dire victoire de Jason Jordan, mais dans ma tête, ça sera une victoire par disqualification. Je pense qu'ils vont prolonger un peu l'histoire et Kurt Angle va ensuite, prochain pay-per-view, changer de stipu.
C'est pas
Voilà.
une mauvaise idée. C'est vrai que j'ai été un peu rapide à dire Jason Jordan gagne, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Victoire par disqualification, ça peut être. Parce que c'est vrai que c'est un peu rapide pour lui filer la ceinture, mais bon. Cruiserweight Championship, Neville contre Enzo Amore. Bon, elle est facile
Ouais,
celle-là.
bah, j'espère ne pas me tromper en disant que Neville va gagner.
Ouais, voilà. Si Enzo Amore gagne, vous pouvez directement annuler 205 Live. Juste annulez-le. Annulez cette émission.
C'est pas qu'on regardait déjà, mais c'est vrai que.
Voilà. Non, mais maintenant, même les gens qui regardent ne la regarderont plus.
Ouais.
Oui, bah voilà, je mise Neville aussi. Finn Balor contre Bray Wyatt. Si on en avait encore besoin.
Oui, attends, bah du coup on en est à combien? Balor a
Troisième.
gagné Balor a gagné le
Ah oui.
premier. Non, Bray Wyatt a gagné le premier,
Ouais.
Balor le deuxième. Non, bah
Bah
c'est
alors le
Balor.
troisième.
Ouais, Balor va gagner la Fed,
Voilà.
Balor le troisième.
Attends, on va être d'accord toi à chaque fois. Tag Team Championship, Dean Ambrose, Seth Rollins contre Cesaro
C'est dur, mais bon, bah je pense que les champions vont conserver. Rollins Ambrose.
Sheamus.
Mais c'est pas évident. Les autres sont forts en face.
Ouais, et
Mais comme Gallows et Anderson ont l'air de remonter petit à petit la pente, je les vois bien.
Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Putain, j'ai envie d'être d'accord. Mais pour une fois, je vais miser contre l'évidence et je vais mettre Cesaro Sheamus. Allez, soyons fous. Raw Women's Championship Fatal 5-Way Emma contre Bayley, contre Alexa Bliss, contre Sasha Banks, contre Nia Jax. Qui tu as? À part Emma.
Moi je vais la jouer
On peut éliminer Emma.
jurisprudence à la WWE ces dernières années. Quand ils sont 4, 5, 6 sur le ring, c'est très souvent le champion qui conserve. Donc je vais dire Alexa Bliss, même si au fond j'y crois pas trop, mais je vois pas, il y a rien trop qui me donne envie derrière. Donc je vais dire Alexa conserve, quitte à perdre au Raw du lendemain.
Et bah je suis en train de dire, est-ce qu'ils vont pas nous swerver avec Bayley? Ce serait pas une swerve de nous mettre Bayley. Non, allez, je vais miser Nia Jax. J'ai misé Nia Jax, j'avais misé Nia Jax de base, donc du coup voilà. Allez, Nia Jax, John Cena contre Roman Reigns. Qui tu as?
Enfin, ça c'est dur, hein. Je trouve que c'est hyper dur. Parce que ils l'ont. C'est un peu ce que Roman Reigns a dit, hein. Mes actions parlent pour moi. Jolie façon de dire qu'il sait pas trop se démerder avec un micro. Mais bah, c'est vrai que s'ils le font perdre alors qu'il a gagné contre tout le monde, contre Triple H, contre l'Undertaker, contre. Ouais,
Bon,
John
ta
Cena, ça.
réponse, Raph.
Ouais, Roman. Moi je vais dire Roman Reigns.
Ok, moi je dis John Cena. Brock Lesnar contre Braun Strowman.
Pour moi, c'est le moment de Braun Strowman. Ça ferait bizarre là dans ce pay-per-view là, mais j'y vais voter Braun Strowman.
Moi je dis Braun, hein. Moi, je dis Brown aussi parce qu'il va, il va bien falloir, il faut trouver quelqu'un pour arrêter Brock Lesnar. Et vous trouvez, il y aura personne d'autre. Après, ah ben là, après Braun Strowman, il n'y a plus personne, quoi.
Non, c'est sûr.
Et Samoa Joe est passé, Roman Reigns est passé, tout, tout le monde est passé. Donc, du coup, il n'y a pas de, il y a personne.
Et puis, ouais, et puis en un contre un, c'est ce qu'il faut. Enfin, Lesnar, c'est la, la bête. Mm. Pour créer le futur, puisque c'est ça qui est si important, il faut qu'il y ait un mec qui prenne sa relève. Il ne faut pas qu'il perde. Finalement, ce n'était pas si bête de le faire gagner le Fatal 4-Way Lesnar. Il faut qu'il tombe face à un mec plus fort que lui, quoi.
Ouais.
Et là, on est bon.
Voilà, voilà. Et ben, je vois, d'ailleurs, pour information, le show sera diffusé à partir de 2h Paris et 20h Montréal sur le WWE Network, hein, voilà pour info. Et il sera aussi diffusé en France sur AB1 et en Belgique sur ABX Plore à 2h05. Donc voilà, il y aura 5 minutes de décalage. Ah, ils ont que 5 minutes de décalage, je croyais qu'ils avaient un quart d'heure. Bon, bon. Donc voilà, Ivalou. Pour avoir les commentaires de Ajus et Chéro. Ou sinon vous pouvez avoir les commentaires des Canadiens, mais apparemment c'est pas terrible d'après Ringside sur le network. Je remercie Raph.
Ben oui, je t'en prie. Merci à toi pour avoir présenté.
Et de rien. On vous rappelle donc du coup que vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes, et vous pouvez nous regarder sur YouTube. Donc c'est Catch Up CDC, hein, ou Cahier du Catch, hein, les chaînes sur Twitter @CatchUpCDC, sur Facebook facebook.com/CatchUpCDC. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines, donc du coup avec l'analyse de Raw qui est généralement publiée le jeudi ou le vendredi, le supplément SmackDown qui est publié à peu près dans les mêmes eaux, hein, parce que l'équipe du supplément publie beaucoup plus vite que nous. Et puis voilà, on vous souhaite un très bon No Mercy, et on espère que voilà, ce sera un beau pay-per-view malgré tout ce qu'on peut raconter dans cet épisode. On espère quand même que ce sera un beau show. Il y a de quoi faire dans la carte. Gros bisous et bonne semaine pleine de catch.